Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Un nouveau cas de COVID-19 au Victoria et toujours pas de nouvelles sur l'allègement des mesures sanitaires. Le Norvégien Alexander Kristoff remporte la première étape du Tour de France 2020. Le Belge Philippe Gilbert, lui, est contraint à l'abandon pour cause de blessure. Une manifestation monstre à Maurice pour protester contre la gestion d'une catastrophe écologique. Le Victoria a enregistré 114 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès, ce qui porte le nombre de décès à 611 pour l'ensemble de l'Australie. Les cas recensés aujourd'hui marquent une hausse par rapport aux 94 cas enregistrés hier. Ce dimanche, le Victoria termine la quatrième semaine sur les 6 semaines de mesures de confinement strictes, dites de stade 4 dans la région de Melbourne. Et là, le reste du Victoria est frappé quant à lui de mesures de restriction de stade 3. Ces mesures devraient durer jusqu'au 13 septembre prochain. Malgré les résultats en nette diminution, le premier du Victoria ne veut toujours pas se prononcer sur ce qu'il fera après le 13 septembre.
What we can be certain of right now, these case numbers are too high for us to open up, and they are still too high for us to put forward a definitive plan. Now, there will be a plan. It will come soon, but it will be one that we can be confident of. Not something that potentially gets us a few weeks of people being happier, but then ultimately has to be revised because it didn't mean much when you first announced it.
Belal Sadala Kazal, qui avait été condamné à 12 ans de prison pour terrorisme, sera relâché ce dimanche. Cet ancien nettoyeur de cabine de la compagnie aérienne Qantas avait été condamné pour avoir publié en ligne un manuel d'actes de terrorisme en arabe. Ce manuel comprenait notamment des techniques d'assassinat et comprenait aussi une liste des cibles potentielles de ces assassinats, y compris des personnages de notoriété publique dans de nombreux pays, dont l'Australie. Belal Sadala Kazal n'a jamais nié les faits, arguant qu'il n'avait pas pour objectif d'inciter au terrorisme. Les détails des conditions de sa libération n'ont pas été rendus publics, mais on signale que malgré sa libération, il fera toujours l'objet de mesures de surveillance pour protéger la population. Et après 2 mois de retard, la 107e édition du Tour de France a finalement démarré avec la victoire à la première étape du coureur norvégien Alexander Kristoff, un coureur qui s'est imposé sous la pluie le lieu de départ et d'arrivée du Tour de France édition 2020, donc la première étape. Le coureur belge Philippe Gilbert, qui a été impliqué dans une vilaine chute, a dû abandonner le Tour de France hier. Pourtant, malgré sa chute, il avait réussi à franchir la ligne d'arrivée à 11 minutes du vainqueur. Écoutons-le décrire les conditions de sa blessure.
J'ai passé une radio et ensuite une IRM, et c'est suite à l'IRM qu'on a pu voir qu'il y avait un trait de fracture. Alors on ne savait pas exactement si c'était le trait de fracture d'il y a 2 ans, cicatrisation, ou si c'était une nouvelle fracture. Donc on a fait une échographie et là on a vu un épanchement de sang assez important. Et là il n'y avait plus de doute possible. Je veux dire, quand il y a du sang en quantité comme ça, ça veut dire que c'est l'os qui est touché. Et voilà, ça confirmait la fracture. Donc maintenant je me retrouve de nouveau avec une fracture sur le genou gauche, comme il y a 2 ans. Mais si on peut parler de bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. Et que ça va être plus rapide. Donc finalement, à choisir, parce qu'on hésitait au début si c'était pas ligamentaire ou les tendons. Et je pense qu'un os guérit toujours plus vite qu'un ligament, par exemple. Donc finalement, c'est peut-être la meilleure des issues possibles.
Il faut souligner que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Tour de France ne s'était jamais disputé après le mois de juillet, un report cette année dû à la pandémie de coronavirus. Et hier, des centaines de manifestants se sont rassemblés place de la Nation à Paris pour protester contre le port du masque obligatoire. Une manifestation qui s'est déroulée sur fond d'une recrudescence du nombre des cas positifs, car hier on a enregistré 5453 nouveaux cas positifs au coronavirus, une baisse par rapport aux 7379 enregistrés vendredi, 6111 jeudi et 5429 mercredi, ce qui constituait de nouveaux records depuis que les tests se déroulent à grande échelle. Mais face à ces chiffres, Frédéric Adnay, professeur de médecine à l'hôpital Avicenne de Bobigny à Paris, souligne qu'il faut se préparer à une longue bataille contre le virus.
C'est la fameuse courbe en cloche, on atteint un pic. Et ensuite, vous avez une décroissance qui obéit aussi à la même loi mathématique, c'est-à-dire qu'elle décroît aussi rapidement que la croissance. Le problème, c'est d'arriver à ce fameux pic épidémique, donc au sommet de la courbe, pour après avoir une décroissance. Et toute la problématique que l'on a actuellement, c'est justement ce pic épidémique qu'on pense qu'il sera moins important que la première vague. Pourquoi ? Ben parce que le virus, ok, il circule, donc il progresse sur une nature exponentielle, mais il progresse dans une population qui est masquée, qui respecte la distanciation, avec du tracing et avec une certaine immunité collective. Ces quatre phénomènes ralentissent la propagation du virus et vont faire que le pic épidémique sera beaucoup plus bas que la première vague, mais au prix, malheureusement, d'une propagation du virus, ce sera plus longue dans le temps, donc il faut se préparer, malheureusement, à vivre avec le virus pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ou qu'on ait une immunité collective qui permette d'arrêter l'épidémie.
Et c'était le professeur Adnay de l'hôpital Avicenne de Bobigny à Paris au micro de Laurence Théo pour RFI. Et on reste en France avec la rentrée hier des partis politiques, surtout les partis de droite où on observait une rentrée en ordre dispersé au relent de campagne présidentielle. Le sénateur et chef des files des Républicains, Bruno Retailleau, a rassemblé ses soutiens près de Nantes, alors que Valérie Pécresse, en région Île-de-France, faisait de même en région parisienne, avec de chaque côté des ambitions présidentielles. Reportage Anne Soitement pour RFI.
C'est chez elle, dans la région qu'elle dirige et qu'elle aimerait continuer à présider après les régionales de l'année prochaine, que Valérie Pécresse a fait sa rentrée. Devant plus d'un millier de personnes, membres de son parti libre, Valérie Pécresse a attaqué le gouvernement sur la sécurité, avec des mots qui ont résonné avec ceux d'un autre présidentiable de droite, Xavier Bertrand, une manière de lancer le match de 2022.
Je ressens le devoir de parler plus fort encore. Je ressens comme jamais l'impérieuse nécessité de construire avec vous un avenir qui n'est pas écrit d'avance. Le temps est peut-être venu de faire entendre la voix d'une femme libre.
Symbole d'une droite qui s'agite à un an et demi de la présidentielle, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, fait lui aussi sa rentrée aujourd'hui, mais à quelques centaines de kilomètres d'ici, à La Baule. Bruno Retailleau qui devrait le répéter, s'il y a une primaire à droite pour désigner le candidat en 2022, il sera candidat. Bruno Retailleau et Valérie Pécresse qui se retrouveront le week-end prochain pour la rentrée officielle du parti avec un autre présidentiable de droite, François Baroin.
Et à Maurice, hier, des milliers de Mauriciens sont descendus dans les rues de Port-Louis pour dénoncer la gestion de la marée noire par le gouvernement. Une marée noire qui avait été provoquée par le vraquier japonais MV Wakashio qui s'était échoué au large des côtes mauriciennes, provoquant une pollution sans précédent. Vêtus de noir et arborant des drapeaux mauriciens, les manifestants ont appelé le Premier ministre Pravind Jugnauth à la démission. Des partis politiques mauriciens se sont liés au mouvement de protestation et parmi les manifestants, Ajay Ganens, président du mouvement militant mauricien, qui réclame lui aussi la démission du Premier ministre Pravind Jugnauth. Écoutons-le au micro d'Alexandra Branjon pour RFI.
C'est un ras-de-bol de la population. Vous voyez là, par exemple, le cas de Wakashio, comment ils ont mal géré le naufrage et comment là, maintenant, vous avez le dauphin qui sont en train de mourir dans la mer. Le gouvernement n'a pas agi pendant 12 jours. Il n'y a même pas l'hélicoptère qui est sorti. Et hier, le Premier ministre, dans le Parlement, vous dit qu'il y a des hélicoptères qui ne sortent pas le soir, qui ne sortent que pendant le jour. Il met tout le blâme sur le temps. La mer était mauvaise. Donc, c'est l'inaction du gouvernement que le peuple qui sont venus dire non, assez, c'est assez. La population n'a pas confiance dans ce gouvernement.
Et il faut souligner qu'on estime que les manifestants Les manifestations d'hier ont rassemblé entre 50 et 75 000 personnes à Port-Louis, ce qui en fait le plus grand rassemblement anti-gouvernemental de Maurice depuis plus de 50 ans. Et le bras de fer qui dure depuis 2 mois entre Apple et Epic Games s'est durci d'un cran. Après avoir éjecté de sa boutique en ligne le célèbre jeu de Fortnite, Apple s'en prend désormais à une ressource cruciale de revenus pour Epic Games, son moteur de jeu. Reportage Patricia Lecomte pour RFI.
Désormais, Epic ne peut plus concevoir d'application pour les utilisateurs d'iPhone, de smartphones et d'autres appareils de la marque Apple. La firme à la pomme prive Epic de l'accès à ses outils de développement, compromettant l'Unreal Engine, le moteur de jeux vidéo créé par Epic Games. Conséquence pour les utilisateurs, ils ne peuvent plus télécharger ou retélécharger une application créée par Epic ou faire des mises à jour sur les plateformes iOS et macOS, les systèmes d'exploitation d'Apple. Les deux groupes s'affrontent devant la justice depuis plusieurs semaines. Le litige repose sur le montant de la commission de 30% que prélève Apple à chaque achat via sa boutique en ligne Apple Store. Epic Games, qui a porté plainte contre Apple pour abus de position dominante, a tenté de contourner le système de paiement afin de percevoir directement les règlements des joueurs en lien avec ses applications. Apple avait alors menacé de fermer le compte d'Epic Games. La menace est aujourd'hui mise à exécution, mais elle n'est pas sans conséquence pour tous les autres clients de l'éditeur hébergé par Apple. Ils se retrouvent privés de l'accès à un programme nécessaire pour faire fonctionner leurs applications. Face à l'avertissement d'Apple, plusieurs développeurs ont pris les devants et abandonné Epic Games au profit d'autres fournisseurs de moteurs de jeu.
Et les services météorologiques du Victoria avertissent la population contre des vents violents qui vont frapper une partie de l'État. Les services de secours demandent aux gens d'être vigilants et de se tenir à l'écart des zones de danger potentielles. Donc de s'éloigner des inondations, des débris, des arbres abattus et autres dégâts sur les routes. Des vents violents frôlant des vitesses de 90 à 100 km/h frapperont les Grampians, les régions alpines et la côte sud du sud-ouest du Victoria avant de poursuivre vers le Gippsland. Et un mot de sport à 6h30 ce soir, coup d'envoi de la grande finale du championnat de football australien, donc de la A-League, un match qui opposera le Melbourne City au Sydney FC, donc qui cherche à défendre son titre. Coup d'envoi donc ce soir à 6h30 à Sydney. Et un coup d'œil météo pour ce dimanche, Perth 22 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 19, Hobart 20, Canberra 18, Wollongong 23, Sydney 25, Newcastle 24, Brisbane 22, Cairns 26 et Darwin 34. Faisons un rappel des titres de l'actualité de ce dimanche. 114 nouveaux cas de COVID-19 recensés au Victoria et toujours pas de nouvelles sur l'allègement éventuel des mesures de restrictions sanitaires. Et le Norvégien Alexander Kristoff remporte la première étape du Tour de France 2020, alors que le Belge Philippe Gilbert est contraint à l'abandon pour cause de blessure. Et une manifestation monstre à Maurice pour protester contre la gestion d'une catastrophe écologique.
Continuons la conversation sur notre page Facebook.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.